Pam 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 pam. Non, ça c'est pas c'est pas Gustave Eiffel. Bon, on est au Festival d'Avignon. Il y a du spectacle dans la rue, à l'extérieur. Il y a du soleil. Il y a un peu de tout, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et on a des auteurs, des créateurs, des metteurs en scène, des comédiens qui sont avec nous pendant l'opération Web Radio du Off au Novotel Avignon Centre. Et là, j'ai le plaisir de vous présenter Alexandre de Limoges. Bonjour. De Limoges,
bonjour. C'est un seul mot. En un seul mot, de Limoges, oui, de la Limoges. Révolution est passée par là. Voilà.
C'est... Ah oui, on a
tout perdu.
On a tout perdu, mon Dieu.
Peut-être tout gagné, du coup.
Oui, mais vous êtes passionné par l'histoire ?
Oui, bien sûr.
Monsieur Alexandre de Limoges.
Ah oui, oui, c'est ma passion. En fait, je suis devenu comédien malgré moi.
Ah oui ?
J'avais pas du tout envie, en fait. Et puis, à 17 ans, Sylvie Joly est venue me chercher. Elle m'a dit, voilà, j'ai besoin de toi, on va faire ça, on va faire ça. On a fait plein de trucs, puis du coup, je suis rentré dans le métier. Malgré moi, mais je voulais être historien.
Jolie, c'est une jolie carte d'entrée, quoi.
Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai suivi. J'ai dit, ah bah tiens, pourquoi pas, elle y croit. Elle avait tort, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'étais mauvais comme tout. Mais bon, voilà, je me suis engouffré là-dedans. Je suis devenu intermittent à 18 ans. Et après, ça ne s'est jamais arrêté. Mais une frustration d'archéologue.
L'envie d'aller chercher l'histoire, de découvrir l'histoire. On a parlé de vous avec Anne Cangelosi, il y a quelques jours.
Oui,
pour le Radeau de la Méduse, c'est vous aussi l'auteur du texte.
C'est ça. J'ai écrit ce... En fait, j'en écris un par an. Un biopic sur un personnage révolutionnaire ou sur quelque chose qui a bouleversé une époque.
Les génies de l'époque ou du temps, de leur temps.
À l'époque, c'était Géricault pour le Radeau de la Méduse. Donc, c'est le maître en peinture du romantisme. Mmh. Mais aussi, ça fait un gros scandale politique à cette époque.
Oui.
Il fallait vraiment cacher ce scandale du Radeau de la Méduse. Mmh. Et bon, bah, le tableau l'a tellement mis en lumière que catastrophe pour le roi.
Voilà. Mais on n'est pas là pour parler du Radeau de la Méduse, on est là pour parler de Gustave Eiffel.
Merci bien.
Enfer et contre tous, avec un sacré jeu de mots. Enfer,
oui.
En deux mots. Hein.
Oui, enfer,
c'est quand
en
même l'enfer.
Mots, mais vraiment contre tous, parce qu'à l'époque, que ce soit les ingénieurs, les artistes, presque tous les politiques aussi étaient contre l'édification de cette tour. Verlaine, Maupassant, Zola, enfin tout le monde s'est ligué contre lui pour et ils ont failli gagner. Mmh. Mais finalement, il y a un ministre, le ministre de l'économie de l'époque, qui s'est mouillé vraiment pour dire moi j'y crois et on va mettre quand même cet argent. Et voilà. Et puis Gustave Eiffel a répondu à une lettre dans un journal de l'époque, le plus gros journal de l'époque, pour défendre son projet et ça a sauvé. Son projet.
Voilà. Mmh. Oui, parce qu'à l'époque, on trouvait ça horrible.
On trouvait ça horrible, on trouvait ça infaisable, on trouvait que c'était du gâchis d'argent.
Ouais.
Voilà.
C'est une sorte d'obélisque, un peu, quand même, la Tour Eiffel.
Oui, alors on dit souvent qu'en forme phallique et tout ça, mais franchement, regardez-la.
Moi, je voyais le truc égyptien de l'obélisque.
Bah oui.
Je sais pas, c'est un
c'est dur de faire
de
une obélisque,
pouvoir
hein.
Ou quelque chose comme ça. Oui, c'est très très compliqué. Mais la Tour Eiffel, ça n'a pas été simple non plus.
Ça n'a pas été facile. Mais c'est 20 ans de travail, c'est 4 ans de ces 5300 plans, 20 dessinateurs, architectes. Voilà, c'est un travail colossal avant l'exposition universelle de Paris de 1889, là où elle a été inaugurée. Mmh. Mais c'était quand même un travail énorme avant.
Alors dans votre pièce... Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, on démarre à un moment précis.
Oui, on est en décembre 1888.
Et là, c'est
un peu
la révolte.
Ce matin, alors qu'il fait bien froid et qu'on doit livrer cette tour dans 3 mois. Donc, comme je disais, elle va servir de porte d'entrée pour l'exposition universelle. Mmh. Cette tour, donc, ce n'est pas juste une construction comme ça. Elle doit être livrée dans les temps. Dans 3
oui.
mois. Donc on ne peut pas être en retard. Pour autant, on n'en est qu'au deuxième étage, on n'est qu'à la moitié. Et ce matin, décembre 1888, donc grève des charpentiers italiens au deuxième étage. Deuxième grève, hein, puisqu'ils ont déjà fait grève il y a 3 mois. Ils ont été augmentés. Ce sont les ouvriers les mieux payés de France. Bon, on ne peut pas les augmenter, quoi. Donc l'objet de ce matin et le péril de ce matin, dans mon bureau, le bureau de Gustave Eiffel, c'est les syndicalistes m'attendent dans la pièce d'à côté. Et j'ai une heure pour réfléchir à trouver à les remettre au travail sans les augmenter. Et voilà, c'est l'objet de la pièce. Donc j'arrive dans mon bureau un petit peu énervé, autant vous le dire, et on discute avec le public sur le contexte social, politique, artistique de l'époque et comment on en est arrivé là et pourquoi les gens détestent ce Gustave Eiffel, ce projet et qu'est-ce que c'est la révolution industrielle et qu'est-ce que c'est la révolution sociale du 19e. Voilà, la petite histoire raconte la grande. Quoi.
Déjà, Gustave Eiffel, vous me le disiez tout à l'heure en antenne, il n'est pas français.
Non, il est
allemand.
Alors voilà, sa mère était dijonnaise et son père était allemand.
Donc c'est un immigré, quoi.
Mais l'histoire se répète sans arrêt. Ouais. Lui-même, on le détestait.
Oui, mais c'est à une époque précise parce qu'on est après la. Ah non, on n'est pas encore à la guerre.
On est juste après la guerre avec la Prusse. Oui, on vient de perdre en 1871. Les Prussiens nous ont mis à terre complètement, ont récupéré l'Alsace et la Lorraine. Nous ont complètement humiliés, puis financièrement mis à terre. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi, pour lesquelles on déteste. C'était cette idée de tour parce qu'elle a coûté des millions et alors qu'on n'avait pas d'argent. Bon, au final, l'État a mis 1,5 million de l'époque, hein, je ne peux pas faire la conversion, et Gustave Eiffel a mis 6,5 millions
ses
deniers personnels. Donc finalement, voilà, c'est peut-être ce qui a d'ailleurs motivé à dire « Ok, faites-le, votre folie, la faites-là ». Il est rentré dans ses frais en un an.
6 millions, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, elle était hyper décriée. Bon, on a voulu l'empêcher de la faire, mais c'est quand même devenu le symbole de la France.
C'est le symbole de la France, vous vous rendez compte ? C'est par un Allemand qu'on détestait à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup dit à ce moment-là qu'il était Allemand, mais enfin...
En 1889, 100 ans après la Révolution, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est le bordel, non ?
Alors, on a eu une succession au niveau politique, une succession de retours de restauration de la monarchie, donc la restauration, puis plusieurs Napoléons, enfin plusieurs empereurs, dictateurs, ce qu'on veut, plusieurs tentatives de république. Bon, on a eu une révolution dont on parle d'ailleurs pas beaucoup à l'école, mais quand même importante, 1848, avec début de féminisme, début de mouvements révolutionnaires ouvriers, enfin, donc syndicalisme. En fait, c'est la fin de la monarchie. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est la fin de la noblesse. Donc, c'est le début de la bourgeoisie.
Oui,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui règnent, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui investissent. Ce sont plus ceux qui sont nés riches, mais ceux qui investissent dans les innovations. C'est la révolution industrielle. Donc, Gustave Eiffel fait partie de cette famille-là. Sa mère, ses parents n'étaient pas forcément riches, mais en tout cas, sa mère a créé une entreprise de charbon. Et là, gros succès. Et donc toute la famille l'a suivi. C'est la mère qui portait la culotte, on va dire, en tout cas financièrement, puisque je crois que la culotte, c'était la grand-mère.
D'accord. Non, mais on parlait tout à l'heure du radeau de la Méduse et là de Gustave Eiffel. Ces deux pièces résonnent un peu avec l'actualité, ce
l'une
qui se passe
l'autre,
en ce moment.
Bon, c'est vrai que j'aime les révolutions, hein, vous avez remarqué. Donc forcément, donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais c'est vrai que surtout, ça fait miroir avec aujourd'hui.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On a
ça
vraiment... l'histoire se répète tout le temps et on a toujours des boucs émissaires et on cherche tout le temps en fait à barrer la route des gens qui veulent créer du beau, du grand, de la nouveauté. On aime son petit confort, on a honte de sa lâcheté, alors on va empêcher de tourner en rond les gens qui sont fabuleux finalement. Gustave Eiffel s'en est un, Géricault pareil, c'en était un. L'année dernière, je jouais à Akhenaton. À Akhenaton, le monothéisme est un mec extraordinaire. Là, je suis en train d'écrire sur le procès Fouquet, parce que Fouquet a révolutionné le système monétaire français, où on comprend que l'État n'est rien du tout sans les emprunts. Sans les emprunts aux riches.
D'accord.
Et Fouquet représente ça. Donc oui, moi j'aime ces gens qui font grandir, quoi.
Mais écoutez, quand on va voir votre pièce, déjà on monte de quelques étages, ça mesure combien la Tour Eiffel ?
Alors, à peu près 300 mètres,
300
c'était
mètres.
Le challenge de l'époque.
Et oui, on s'élève et puis on découvre des choses, on apprend, c'est passionnant. On rentre dedans à fond, quoi.
J'espère, et avec
c'est
humour.
C'est impressionnant, oui, et puis il y a de l'humour.
C'est assez interactif, j'interroge pas mal le public au début pour connaître ses connaissances mathématiques, savoir si, où il en est de sa notion de la précision. C'est assez interactif, puis au fur et à mesure, on rentre dans le vif du sujet et c'est de plus en plus profond, on va dire, émouvant.
Puis ça nous fait découvrir des tas de choses, l'envers du décor quelque part, et c'est vrai que ça résonne avec aujourd'hui, donc ça nous fait penser à certaines choses, ça nous permet aussi de voir l'actualité présente avec un regard éclairé quelque part.
Oui. Ce qui m'embête, c'est que les gens qui viennent voir le spectacle, enfin ce spectacle, mais j'allais dire le théâtre en général, sont déjà un peu érudits, ils sont déjà un peu, il faudrait que les autres...
Ah oui.
Viennent voir ce genre de spectacle.
Là, c'est l'inverse. En général, on leur amène la culture. C'est le principe.
Non, mais alors, moi, j'ai envie de dire, en tout cas, aux gens qui n'ont pas envie de voir ce spectacle ou qui n'ont pas envie de voir deux spectacles. Le théâtre, ce n'est pas comme le cinéma ou la télé. C'est quand même un effort. Il faut faire un effort. Alors, on n'a pas envie d'y aller, au départ. Mais on est tellement content quand on en sort. Donc il faut faire cet effort, c'est tout. C'est,
voilà. Oui, puis il faut découvrir le spectacle vivant.
C'est la culture.
Oui, c'est vivant. C'est oui. ça qui est, qu'il se passe toujours quelque chose.
Il y a on
toujours,
en ressortira grandi.
Oui, puis il y a toujours quelque chose qui se passe, contrairement au cinéma où on peut s'ennuyer devant un film.
Mais oui.
Là, il y a toujours un truc. L'acteur est là devant nous, vivant.
L'émotion, elle se transmet pas par une musique ou par. Non, non, elle est là, elle est réelle. Puis en plus, à Avignon, c'est super parce qu'après, on peut discuter dans la rue, on va boire des coups ensemble. Enfin, voilà.
C'est très sympa. Ça reste dimension humaine. Ce sont des petites salles la plupart du temps. Il fait combien de places l'espace Roseau?
L'espace Roseau, c'est la salle Gogol, donc c'est 90 places.
Quand même, on a une belle place là, oui, c'est pas mal.
Oui, ouais, bah c'est mon sixième édition, là, donc je suis confiant.
Ouais, bah, vous avez raison. Gustave Eiffel, on en parle, on va le voir, c'est Enfer, et contre tous, Enfer en métal. Hein, donc, et c'est l'enfer aussi un peu quand même pour lui, parce c'est qu'il l'enfer. Faut sortir de tout ce beans, comme
dirait l'autre. Et contre tous.
Et c'est à 13h tous les jours, au Roseau, à l'espace Roseau de Teinturier. Vous avez des relâches?
C'est relâche les mardis.
Relâche le mardi.
Et on commence là, le 29, là.
Du 29 juin au 21 juillet. Monsieur de Limoges, Alexandre, merci beaucoup et bon festival.
Merci à vous, bon festival.